Bonjour à tous. Dans le cadre de CIBL Reçoit, ici Guylaine Heureux à la barre de cette émission produite en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste. Entêté d'avenir, c'est votre rendez-vous les quatrièmes mercredis du mois. Au menu cette semaine, ou en fait ce mois-ci, devrais-je dire, la place des Canadiens français durant la Première Guerre mondiale, à la fois en reportage et en entrevue. En deuxième moitié d'émission, un long entretien avec Mme Hélène Pelletier-Baillargeon, qui nous parlera du grand personnage qu'a été Olivier Asselin. Et des invités en ouverture d'émission qui viennent témoigner de leur engagement social et politique, Pierre Curzi, Lucie Laurier, accompagnée de Maxime Laporte. Ouvrons donc cette émission avec Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour, Maxime Laporte.
Bonjour, Guylaine.
Accompagné de Pierre Curzi.
Bonjour.
Bonjour, le patriote de l'année. Et Lucie Laurier, dont l'engagement est bien connu, comme je le mentionnais en ouverture. Alors, cet engagement-là citoyen, cet engagement-là social et politique prend diverses formes. On ouvre peut-être avec l'idée du patriote de l'année parce que j'ai aimé votre façon d'aborder cette définition du patriote en 2014.
Oui, de ne pas la restreindre nécessairement uniquement à ma forte conviction indépendantiste, mais se dire que maintenant, en 2014, être un patriote, c'est d'abord et avant tout être convaincu que la souveraineté populaire, la démocratie, les principes qui sous-tendent cette démocratie-là, au-delà d'un statut politique, sont les ferments qui peuvent donner naissance à une nation, qui donnent naissance à une nation, et que la démarche dans laquelle on est actuellement patriotique, c'est d'essayer de reconnaître ses valeurs, ses convictions, ses volontés de changement, ses désirs d'être et de les incarner peut-être dans une constitution, ou en tout cas à tout le moins dans un document qui serait fondateur, puis qui donnerait des ailes et de la respiration un petit peu, plutôt que d'être enfermé dans un discours qui est uniquement comptable, qui est uniquement celui d'une austérité économique, qui est en fait une sorte de soumission aussi à un ordre du monde qui est économique. Donc, c'est le sens que je veux donner à cette belle distinction, cette belle reconnaissance d'une implication, comme l'a dit mon ami Camille Bouchard, qui est celle d'une ardente patience.
En effet. Et c'est intéressant d'aborder ça sous cet angle-là, dans mesure où, j'ai l'impression que ça fait appel à une certaine maturité démocratique, de vouloir voir ça de cette façon-là, que comme citoyen, on le voit, on le sent, on le voit dans les gens descendre dans la rue. Il y a une autre façon dont les gens veulent s'approprier ce pouvoir. Ils ont la capacité, quand je dis maturité démocratique, parce que plus éduqués qu'avant, on l'est plus. Plus informés qu'avant, on l'est plus. Peut-être plus manipulés parfois aussi, bien sûr.
Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a effectivement une prise de parole dans la rue. Donc, ça implique que les gens, et quels que soient leurs intérêts, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que différents groupes d'intérêts s'unissent, donc ça veut dire qu'ils ont une vision commune, là. Puis moi, ce qui, depuis quelques années, me trouble, c'est de voir à quel point certaines grandes discussions sociales nous ramènent à un clivage, comme s'il y avait toujours... Alors que dans la rue, quand les gens sortent, quand les gens s'expriment, ce clivage-là, il disparaît. Puis c'est au contraire, c'est une sorte de solidarité là qui est belle à voir et qui témoigne, je pense, de la force, du désir qu'on a de se donner une société qui corresponde vraiment à ce que nous sentons que nous sommes, qui n'est pas toujours clairement définie, mais qui l'est par moment, par groupe. Et ça, disons s'il y a de l'espoir, parce que, par ailleurs, des fois, le tableau est sombre à plusieurs égards. Mais là, il y a un espoir réel. On l'a vu avec les carrés rouges, qui était une réponse vigoureuse à une volonté de contraindre l'éducation. On le voit avec les familles, dans le cas des centres de la petite enfance. On le voit avec les régimes de retraite, qui est donc ce qui arrivera plus tard pour cette génération-là. On le voit avec les personnes âgées qui se sentent... On le voit partout. Donc, il y a un contre-discours qui s'oppose actuellement à un discours politique où il semble bien que plutôt les élites se retrouvent dans ce discours-là et que le peuple, lui, ne s'y retrouve plus.
En effet, et ça rejoint parfaitement les valeurs de la société Saint-Jean-Baptiste et cet élan que vous avez donné, on en parlait le mois dernier avec l'opération Bélier, d'aller voir les gens, d'aller parler aux citoyens directement.
Tout à fait. Nous sommes très fiers de notre patriote de l'année, oui. 2014-2015.
Comme de tous les autres, j'espère.
c'est ma première année de présidence à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, et pour moi, il était important d'évoquer, finalement, l'esprit des patriotes d'origine. Je parle bien sûr de cette notion de républicanisme que Pierre Curzi met de l'avant et de souveraineté populaire. Vous savez, la démocratie se trouve entièrement dans le peuple et devrait pas, le pouvoir ne devrait pas se trouver ailleurs que dans le peuple et ne devrait pas se trouver chez les puissants de ce monde, chez les seigneurs de la haute finance. Il ne devrait pas se trouver non plus entre les mains d'un autre peuple que le peuple. Et en ce sens-là, et Pierre Curzi le résume très bien, ça définit le sens de notre engagement et le sens que je souhaite donner aussi à mon engagement. Alors, c'est très inspirant et voilà.
Voilà. Cet engagement-là, social, politique, bon, M. Curzi, vous l'avez fait de façon active. Vous le faites encore de façon active, mais pas avec une couleur politique qu'on a connue. Enfin, vous êtes tout à fait dans l'action de toute manière. C'est aussi un choix que fait Lucie Laurier, qui est à notre micro. Donc, bonjour, Lucie Laurier.
Bonjour.
Parce que cet engagement-là se fait de diverses façons. On peut soit choisir de se faire élire, enfin, ou espérer se faire élire et prendre cette parole, mais on peut aussi choisir comme citoyenne de différentes façons, à la fois en se disant, bon, je suis une personnalité connue, j'ai un message et j'ai la possibilité de le diffuser, et c'est ce que vous avez eu la chance de faire.
Oui. Oui. C'est même moi qui suis allée au devant qui a demandé à m'impliquer, en fait, parce que quand j'ai vu le soir du 4 septembre 2012, c'est ça? Ça faisait un mois à peine que j'étais revenue de France, après 4 ans en France. Mm-hmm. Puis je suis revenue, puis Pauline Marois a été élue, et ensuite, il y a eu un attentat.
Mm-hmm.
Et, tu sais, n'oublions pas que cet attentat, ce monsieur Bain en question a quand même dit « Les Anglais se réveillent! »
Oui.
Hein? On va s'en souvenir. Donc, il y avait quand même un message qui était affirmé. Ça ne représente pas du tout les Anglais
non,
au Québec.
Par ailleurs,
je ne pense pas qu'ils sont reconnus. Non, je ne crois pas non plus. Et en fait, suite à ça, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait plein d'espèces de caricatures qui faisaient surface. Alors, on ressortait les maudits péquistes, les méchants Anglais. Il y avait comme un peu des histoires complètement galvaudées, complètement... Et je trouve qu'on est dans une époque un peu superficielle. On traite des sujets de façon très superficielle. Et moi, je suis dans une démarche à mon retour. Bon, en ce moment, le cinéma, je tourne pas tant que ça. Je veux dire, être connu pour être connu, ça n'apporte pas grand-chose dans la vie. Et j'ai une démarche qui... j'ai envie de m'impliquer auprès des causes qui me tiennent à cœur. Et moi, l'indépendantisme, le français au Québec aussi, parce que si on en parle du fameux Pastagate, là, moi, ça m'a choquée. Mm-hmm. Mais ce qui m'a choquée, c'est que je l'ai... Donc, c'est qu'on remet encore Québécois, on est replié sur nous-mêmes, comme si le français était contre l'anglais, comme si on était des personnes... Mais je suis désolée, moi j'ai fait un enfant avec un Canadien anglais. ma tante est mariée à un Canadien anglais. On est des souverainistes convaincus et je pense que toute cette espèce de caricature des indépendantistes, que d'ailleurs le fameux Sugar Sammy, qui est redevenu une plus grande star cette semaine, aime bien,
fait
quand même son capital là-dessus. Hein.
En effet.
Et ça, moi, ça m'énerve un peu. Je trouve qu'on est depuis... D'ailleurs, c'est dans tous les domaines, je trouve qu'il y a une superficialité ambiante sur les sujets. On l'a même vu, moi, ce qui m'a choqué, c'est du côté de la gauche, par exemple, qui fait des épouvantails de cause, comme s'il y avait les bons, les méchants, les... c'est pas ben, ça.
La nuance, c'est toujours plus difficile à faire valoir, voilà, parce que ça demande une intelligence vendeur, du propos.
Parce que si ouais. j'en parle du fameux Pastagate, moi, mm-hmm. je me suis tenue, je les connais les gars du mm-hmm. Je pense pas qu'ils écoutent CIBL aujourd'hui, mais je m'en fous. Mm-hmm. Mais je les connais, moi, les gars du Buonanotte. Mm-hmm. Et puis, et la vérité, c'est que ces gars-là, ça marchait plus le Buonanotte, là. C'est plus cool. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là, là. Les Anglo, les Franco, ensemble, puis j'étais porte-parole de la loi 101, puis en même temps, je tombe en amour avec un gars qui est complètement fédéraliste et anglophone, et puis je me tiens sur Saint-Laurent.
Ça fait des discussions intéressantes à la maison, c'est ça?
Mais complètement, puis on se respecte et on s'aime. Ouais, puis, et d'ailleurs, c'était le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gars-là, soyons honnêtes, pourquoi est-ce que ça a été monté en épingle, le Pastagate? C'est parce que le Buonanotte, ça marchait plus. Et qu'ils savaient qu'ils ouvraient un Buonanotte à Toronto quelques mois après. Ne me dites pas que cette... Et une très bonne amie à moi me dit, mais voyons, ils n'ont pas demandé de changer le mot pizza ou macaroni. Mm-hmm. Ils ont voulu changer... Ils ont demandé à modifier les catégories. Mm-hmm. Les vins, les pâtes. Je veux dire, moi, j'habite à Parc Extension et c'est impossible pour moi de me faire servir en français. C'est mon quartier... C'est un fait qu'à Montréal, il est dans certains quartiers, il est absolument impossible de se faire servir en français. Moi, je me suis fait dire, je parlais parce que je suis quelqu'un très ouverte sur le monde, mais aussi sur mon quartier. Puis je m'en vais dans les petits bars grecs à côté, et il y a un bar où il y a justement des machines à jeux, tout ça. Puis je parle au propriétaire. Je voulais me trouver une job, en fait, là, pour la vérité. Puis je parle avec le propriétaire, puis on s'entend très bien, évidemment, fédéraliste convaincu. Puis il me dit, les Québécois, oui, mais les Québécois, c'est des BS. Il me dit ça. Ouais. Et là, moi, je regarde sa place, puis il y a plein de machines à jeux. Puis je fais, tu sais, là, excuse-moi, mais je vois pas un Québécois francophone ici, là, qui joue à tes machines à jeux. On est tous pareils, je veux dire, des gens, tu sais, on se voit jamais comme on voit les autres.
Ah, mais non, c'est ça, effectivement.
Mais toute l'histoire du Pastagate, c'était aussi pour démoniser l'Office québécois de la langue française. Là. Oui. À ce moment-là, le PQ était au pouvoir, puis il y avait Mme de Courcy qui cherchait à donner plus de pouvoir. Ça a été fini, là, tu comprends, c'était plus possible politiquement. On venait de brûler l'Office québécois, qui a, au contraire, bien des mérites, bien du mérite à défendre la langue.
Exactement. Ouais. Et c'est surtout ça qu'on voulait faire valoir. On en parlait à micro fermé, Maxime Laporte. On a souligné le travail remarquable de l'Office québécois de la langue française et le travail remarquable de la Société Saint-Jean-Baptiste, sans lesquels on ne serait probablement pas en train d'avoir cette conversation-là en français ou plus difficilement à la langue. Et je voulais, bon, d'une part, on va empiéter un petit peu sur... On déborde un peu de ce segment, mais déjà, juste remarquer, et ça vaut la peine de le souligner, que l'Office québécois de la langue française aime bien souligner les réalisations qui font progresser et réunir le français. Ça reste quelque chose d'assez important dont il faut tenir compte tout le temps. Il y a une date limite pour recevoir les candidatures si vous croyez qu'une personne dans votre organisation se démarque parce qu'elle fait avancer le français par son engagement exceptionnel. Alors, cette candidature-là au concours des mérites du français 2015, c'est le 30 janvier. Je le mentionne tout de suite parce qu'on fait relâche en décembre. Donc, quand on va revenir en onde le 28 janvier, ça va être un peu tard pour y penser. Peut-être que ça vaudra la peine que ça soit mentionné quelque part sur la page Facebook de la Société Saint-Jean-Baptiste. On pourra le faire. Et pour conclure ce segment, on voulait quand même mentionner, même s'il n'est pas autour de nous, avec nous autour de cette table, Pierre Allard a reçu le prix Olivier Asselin, ce qui n'est pas anodin parce qu'on sait qui a reçu le prix Olivier Asselin avant lui. Et ça ouvre encore une fois sur l'idée de la protection de la langue française. Très rapidement, oui. Maxime Laporte, dans vos mots.
Bien, oui, Pierre Allard, donc c'est ce fameux éditorialiste au journal Le Droit qui a été exclu pour s'être prononcé sur son blog personnel au sujet de l'avenir de la presse écrite en région, puisque GESCA souhaite supprimer cela. Il y a un lien intéressant qui est à faire entre Olivier Asselin, dont on va entendre parler plus tard, la Société Saint-Jean-Baptiste, dont il a été le président, et aussi le journal Le Droit. Olivier Asselin, à l'époque, en 1914, avait fait une campagne, c'est le sou de la pensée française, 2016. Il avait ramassé plus de 15 000 $ pour sauver le droit, qui est un journal très important pour les francophones de l'Ontario et de l'Outaouais. Or, voilà, donc on tisse les fils, là. C'est quand même très intéressant et j'ai bien hâte d'entendre Mme Hélène Petit-Bayargeon
tantôt. Qui occupera tout le deuxième segment de l'émission. Alors voilà, on enchaîne rapidement. Merci Jean-François qui est à la mise en onde et qui m'écoute attentivement. Pendant que nos invités se saluent et quittent ce studio, on laisse aller un reportage sur la place des Canadiens français dans la Première Guerre mondiale. Tout de suite.
Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la place des Canadiens français pendant la Première Guerre mondiale? C'est une époque tellement lointaine qu'il est difficile aujourd'hui de conserver le souvenir, surtout quand cette guerre n'a pas eu lieu physiquement sur les terres québécoises. Pierre Véna est historien militaire. Il nous renvoie 100 ans en arrière pour un très beau rappel historique.
Eh bien, commençons par dire que les Québécois n'en savent rien. Il ne faut pas dire qu'ils s'en foutaient perdument. Il faut se placer dans le contexte de 1914. Là. En 1914, d'abord, la moyenne de scolarité des Québécois, ils terminaient leurs études cinquième année, d'autres neuvième. Donc, il y avait seulement une élite qui savait ce qui se passait en Europe. Ensuite, il faut dire que même la France était vue d'un mauvais œil. Ça peut sembler curieux. Elle était vue d'un mauvais œil, pourquoi? Parce qu'on était une théocratie contrôlée par l'Église, alors qu'en France, c'était l'État laïque. Deuxièmement, les Français nous avaient tout de même abandonnés, il faut bien le dire, en 1760. Bon, alors, ensuite, les journaux étaient lus que par l'élite, ce qui fait que les Québécois, le 24 juin 1914, quand est arrivé l'attentat de Sarajevo, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Pour qu'une goutte fasse déborder un vase, il faut que le vase soit pas mal plein. Alors, ils ne savaient rien de ça. Donc, quand la guerre s'est déclarée, les Québécois sont embarqués dedans sans le savoir.
Comme l'explique Pierre Véna, à l'époque et dans le contexte du début du 20e siècle, les Québécois n'étaient pas forcément intéressés dès le début à partir en guerre avec la France. Contrairement aux Canadiens anglais. Alors bien sûr, plusieurs raisons expliquent ce non-engagement. Une d'entre elles, que l'on retiendra ici, c'est que pour s'engager dans cette guerre en tant que Canadien, il fallait parler anglais. Le recrutement chez les francophones était donc plus compliqué. D'ailleurs, la presse ontarienne de l'époque critiquait le manque d'efforts de guerre au Québec. Alors les politiciens se sont réunis pour créer le Royal 22e Régiment, unique et première unité de combat 100% francophone au Canada. À ce moment-là, les motivations pour s'enrôler se sont multipliées.
C'est la même chose pour la deuxième. Est-ce qu'on s'engage par patriotisme ou on s'engage par goût de l'aventure? Moi, je dirais que les officiers s'engagent généralement par patriotisme parce que ce sont des gens qui ont des professions. Il faut dire qu'on n'avait pas d'armée permanente en 1917. Alors, donc, ces officiers-là, là, c'était des réservistes et des avocats, des gens comme ça. Des étudiants aussi qui quittaient l'université. Les soldats, il y avait le fils de famille, parce que c'était des familles nombreuses au Québec. Hein, les 14 enfants, il y en avait beaucoup. Alors, on envoyait un dans le clergé, un autre pour faire un frère, puis le troisième, il allait à l'armée parce que ça amenait un salaire à la maison. Le soldat dépensait peu ou pas sa solde. Il était logé, nourri, habillé, ça faisait une bouche de moins à la maison, plus sa solde à sa famille. Alors ça, ça a joué. Mais une chose qui est certaine, c'est que le patriotisme pour sauver l'Angleterre, là, oubliez ça.
Aujourd'hui, l'historien s'interroge sur le souvenir actuel des terres québécoise et explique le manque d'intérêt sur la Première Guerre mondiale.
Comment se fait-il que le souvenir soit moins fort ici qu'en Europe? Pourquoi a-t-il fallu les attentats d'Ottawa dernièrement pour que les Québécois commémorent davantage les morts en front? C'est bien simple. C'est qu'aller jusqu'à ces attentats-là, la guerre, le terroriste, enfin, tout ça, c'était pas chez nous. Alors, le Québécois, il connaît pas la guerre. Les Français, eux, c'était chez eux. Les Belges, les Allemands, là, tout ça qui commémore la Grande Guerre, tout ça, là, ça s'est fait chez eux. Nous, on n'a pas eu de guerre chez nous depuis 1812. Moi, je pense que ça vient de là. Et maintenant qu'on sait que ça peut arriver ici, peut-être pas la guerre, mais le terrorisme, ce sera, qui est la nouvelle forme de guerre, finalement, eh bien, les gens sont plus conscients et la preuve en est que cette année, la vente des coquelicots a eu un essor considérable. C'est malheureux, ça a pris M. Vincent puis celui qui est mort là, devant le cénotaphe pour finalement ranimer le souvenir des autres avant eux.
La notion de souvenir des guerres est un thème qui a également beaucoup intéressé la réalisatrice Viveka Melki dans son film « Correspondance de guerre ». Elle fait appel aux souvenirs à travers les lettres des soldats qui ont été retrouvés dans des familles québécoises.
Je connaissais l'histoire, mais pas l'implication des Canadiens. J'ai vu un vétéran qui plaçait des drapeaux dans une cimetière à Métis et il plaçait les drapeaux pour les gens qui ont décédé ici dans l'entraînement à Mont-Joli. J'ai demandé qu'est-ce qu'il fait, puis il m'a dit « je garde le souvenir ». Pour les gens que je connaissais même pas. Et j'ai trouvé ça fascinant, que j'ai trouvé que moi, je pourrais aussi faire un effort à comprendre le souvenir et comprendre pourquoi la journée de souvenir était importante. Parce que j'ai trouvé qu'on est beaucoup déconnecté.
Raconter l'histoire de la guerre par des lettres est une idée qui a tout de suite convaincu le producteur de correspondance de guerre, Adam Pajot-Gendron.
C'est vraiment le fait de pouvoir mettre un visage sur l'histoire. Le fait de pouvoir dire, on a l'histoire d'un soldat qui est parti au front et qui nous relate cette histoire-là de première main. C'est la voix d'un individu. Ça, je trouvais ça très, très intéressant là, de pouvoir communiquer les histoires de la Deuxième et de la Première Guerre mondiale de cette façon-là. C'est important, en fait, de se souvenir. C'est important de savoir d'où on vient parce que, veux pas, l'histoire se répète. Et puis, l'histoire du passé, ben, souvent, c'est aussi l'histoire de l'avenir, du futur.
Pour illustrer cette perte de mémoire du souvenir, la réalisatrice a intégré un personnage fascinant dans son film. Jack est un jeune garçon de 11 ans qui rentre d'un voyage avec son père à Vimy, en France, où de nombreux soldats canadiens sont morts lors d'une bataille pendant la Première Guerre mondiale. Cette visite marque le jeune garçon et change sa vision de la guerre, des soldats et du passé.
Quand j'ai rencontré Jack, je savais dans les premières 5 minutes que c'est quelqu'un assez incroyable qui est en train de parler son code moral à haute voix. Il a pas peur de dire « je pense que le courage est ça, je pense que l'amour est ça ». À l'âge de 11 et 12 ans, les enfants font ça à haute voix. Pour moi, c'était un genre de vérité. On peut dire qu'ils viennent des bouches des enfants. C'est la guerre mondiale a été, on peut dire, un peu plus noir et blanc, en étant qui était bon et qui était mauvaise. Et depuis ce temps, on n'est pas certain pourquoi on est à la guerre. Alors je dis que pour Jack, dans son innocence, dans une façon pour lui aussi, il montre cette côté un peu noir et blanc de l'histoire. Lui, il avait une famille qui était dans la guerre. Mais par exemple, pour moi ou ma fille qui est née ici, il n'y a aucune raison qu'elle va attacher à la Première Guerre mondiale. On n'avait pas de famille impliquée. C'est ça, c'est que souvent, c'est un objet qui fait qu'on attache à une histoire, mais quand t'as absolument rien qui reste, où est le souvenir? Et c'est pourquoi, pour moi, c'était Jack était l'idéal d'un enfant qui a eu la chance d'attacher à cette histoire, mais la majorité de nous, on n'a rien.
Cette année, la journée du souvenir a été un exemple marquant du retour de ce souvenir des soldats français-canadiens des deux guerres mondiales, comme le rappelait l'historien Pierre Véna. Pour lui, c'est aujourd'hui aux nouvelles générations de perpétuer ce souvenir, car on sait l'importance de connaître son passé, surtout dans une société qui cherche encore son identité propre. C'était un reportage d'Émilie Lamine pour la radio CIBL 101.5.
Je souligne que le film Correspondance de guerre, 1914-1918, au-delà des mots, de la réalisatrice Viveka Melki, qui était dans ce reportage, sera diffusé ce soir dans le cadre de l'émission Les grands reportages, donc à 20h sur la chaîne ICI RDI. Enchaînons maintenant avec l'entrevue que nous accorde Jean Martin, historien à la direction de l'histoire et du patrimoine au ministère de la Défense nationale, qui vient de faire paraître aux éditions Athéna un ouvrage intitulé « Un siècle d'oubli, les Canadiens et la Première Guerre mondiale ». Bonjour, Monsieur Martin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation-là à apporter votre grande recherche à cette émission.
Le but, c'est justement de parler de cette question-là. On n'en parle pas assez souvent.
Exactement. Mais déjà, une précision pour les auditeurs et les auditrices, c'est à titre d'historien que vous faites paraître cet ouvrage qui est en fait en dehors de votre travail directement au sein du ministère et vous n'êtes pas non plus un militaire.
Non, pas du tout. Non, je suis un historien.
Exact.
Un historien comme tous les autres historiens formés à l'Université Laval dans les années 90.
Oui, c'est ça. Je le précise parce que... Oui, je le précise parce que c'est ça. On veut pas qu'il y ait de confusion. Et aussi, c'est important de mentionner que ce que vous avez fait, c'est plus une histoire de la guerre qu'une histoire purement militaire avec cet ouvrage.
En fait, c'est une série de questions qui me trottaient dans la tête depuis un certain temps, parce que une partie du travail que j'ai à faire au ministère, c'est qu'on va à Vimy régulièrement, trois fois par année en fait, pour former les guides canadiens qui travaillent à cet endroit-là. Donc, ça m'a amené à être en contact avec les lieux, mais à faire beaucoup de recherches aussi sur place, et puis à me rendre compte, par les questions que je me faisais poser, justement, qu'il y a certains points qui sont très peu connus ou qui sont mal connus, en fait, là, qui sont un peu déformés oui. avec le temps. Donc, le livre, c'est pas vraiment une histoire complète de la guerre, c'est
non,
plutôt une série
de questions beaucoup.
Qui sont abordées dans des dans
oui.
les différents.
Il faudrait vous assurer de parler un petit peu plus fort. On me dit que c'est pas si fort que ça en ondes. Et cette première guerre-là, déjà, il faut savoir que c'est une guerre très importante dans notre histoire, ne serait-ce qu'en nombre de morts, et un peu occultée par la Deuxième Guerre mondiale qui prend beaucoup, beaucoup de place.
On l'oublie effectivement. Elle est plus loin dans le temps que la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi la Deuxième Guerre mondiale a pris beaucoup plus de place dans les mémoires à cause... En particulier du cinéma, parce que les films qu'on voit sont à peu près tous des films qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près jamais de la Première Guerre mondiale, pour une raison assez simple, c'est que les films sont faits aux États-Unis. Les Américains ont participé beaucoup plus massivement à la Deuxième qu'à la Première, donc pour eux, c'est important. Et à force de grandir dans cet environnement-là, nous, les Canadiens, on a fini par croire aussi que la Première Guerre, c'était comme une préparation pour la Deuxième qui était beaucoup plus importante, mais dans les faits, il y a plus de Canadiens qui ont participé à la première qu'à la deuxième, mais il y a plus de Canadiens qui sont morts aussi à la première qu'à la deuxième.
Oui. Déjà, on peut définir un peu qui est dans l'armée canadienne lors de cette première guerre mondiale-là. C'est pas du tout le même portrait que la Deuxième Guerre mondiale.
Non, ça se fait, le recrutement se fait complètement de façon différente. En fait, il n'y a pas... La Première Guerre mondiale, c'est comme un peu la naissance de l'armée canadienne. Avant ça, il y a une milice, il n'y a pas vraiment d'armée en place, ou presque pas. Donc, l'armée canadienne va prendre sa forme à partir de la Première Guerre mondiale, et à la Deuxième, on va plus ou moins la réactiver, mais basée sur l'expérience de la Première Guerre mondiale.
Oui. C'est ça. Et on en a parlé en préparation de cette entrevue, et vous le mentionnez assez bien dans l'ouvrage aussi, ce n'est pas si simple de définir qui était le francophone au sein de cette Première Guerre mondiale-là dans l'armée.
Ce sera toujours un problème.
Oui.
On ne le saura jamais parce qu'il n'y a aucune déclaration. Lorsqu'un soldat s'enroulait, nulle part on lui demandait de déclarer quelle langue il parlait. Tout le monde devait parler anglais. C'est l'armée britannique. Le Canada recrute des troupes pour aller combattre avec l'armée britannique. Donc, on s'intéresse pas à la langue des soldats.
Ouais.
Ce qui fait qu'on est obligé de deviner. Ce sera toujours comme ça. Il n'y a aucun moyen de savoir avec précision qui est francophone. C'est facile lorsque vous avez un soldat qui s'enroule en portant un nom comme François Bouchard avec... un père qui s'appelle Athanase Bouchard et une mère qui s'appelle Cécile Fleury ou quelque chose du genre.
Mm-hmm.
Ça, c'est très facile. Mais il y a beaucoup de francophones qui ont des noms à consonance pas évidemment française. D'autres aussi qui changent carrément leur nom. Donc, en comptant les noms francophones, on aura toujours simplement un minimum.
Oui. Et vous mentionniez aussi qu'il y avait des gens qui adoptaient des noms d'emprunt. Il n'y avait pas de vérification qui était faite. Ça rend ça encore plus flou, en fait.
Exactement. La Première Guerre mondiale, ça fait un siècle. Donc, il faut se reporter à l'époque. On n'a pas du tout les registres qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas d'ordinateur pour vérifier la véracité des dires. Donc, c'est très facile de s'enrôler. Quelqu'un qui s'enrôle à Valcartier, qui vient de Saskatchewan, qui déclare qu'il s'appelle... tel ou tel nom, on ne prendra pas la peine de d'écrire en Saskatchewan pour vérifier si c'est vraiment le bon nom. Là.
Oui, exact. Et cette place des Canadiens français dans la Première Guerre mondiale, il y a une différence assez grande dans l'enrôlement hors Québec et au Québec. Vous me le mentionniez, entre autres, parce que l'obstacle de la langue qui faisait qu'on n'était pas si bienvenu que ça dans l'armée, pour dire le moins, et qu'on n'avait peut-être pas tant que ça accès non plus, là.
C'est, ouais. C'est une des choses, en fait, même dans le livre est tout récent, là.
Oui.
Ceux qui vont lire le livre vont voir les chiffres qui sont dans le livre. Je les ai déjà révisés. En fait, ils sont trop bas pour l'enrôlement des Canadiens français parce que, comme je vous disais, c'est toujours un minimum. Donc, on fait les évaluations qu'on peut. Mais j'ai trouvé des choses depuis ce temps-là. J'ai fouillé et je me rends compte que il y a beaucoup plus que les 25 à 30 000 francophones que je mentionne dans le livre.
Oui, je laisse ça en suspens. On va faire quelque chose qu'on fait pas d'habitude, mais c'est parce que ça aurait pas de bon sens de pas terminer l'entrevue. Il faut qu'on passe aux publicités. Alors, on vous laisse en suspens le temps qu'on réfléchisse à tout ça. Puis je reprends la conversation tout de suite après. Ce sera très court.
C'est bien.
On poursuit cette conversation avec Jean Martin, historien. Monsieur Martin, on a eu à placer des publicités à l'intérieur d'une entrevue, ce qu'on fait pas d'habitude, c'était pas arrangé. On a débordé avec le premier segment. Alors, au moment où on a suspendu cette conversation-là, on parlait de la différence entre le recrutement ou les volontaires hors Québec et au Québec, bon, avec la barrière de la langue. Je vous rappelle de parler vraiment un petit peu plus fort, si possible. Et ça ouvre ça sur les unités francophones aussi, parce que vous me le mentionniez, oui, le 22e bataillon, mais ça ne représente pas l'ensemble des francophones qui étaient dans l'armée, n'est-ce pas?
Le 22e bataillon, effectivement, c'est une unité importante parce que celle-là, elle a duré, et puis elle a pris son importance surtout après la guerre. Pendant la guerre, elle a aussi son importance. Là. Mais la majorité des francophones vont servir dans d'autres unités. En fait, d'après mes récentes évaluations, peut-être 9 francophones sur 10 qui auraient servi dans une autre unité que le 22e.
Oui, ce qui est énorme.
C'est effectivement énorme. Là, on parle plus de 25 à 30 000, mais plutôt de 50 et plus probablement 60 000 francophones qui auraient servi là-dessus, peut-être 40 % peut-être même plus à l'extérieur du Québec.
Ah oui, oui, c'est ça. Donc, c'est un portrait intéressant que vous brossez dans ce livre-là. Ça montre comment l'histoire, c'est riche et vivant et que ça bouge toujours.
Il y a encore effectivement beaucoup de choses sur la Première Guerre en particulier. En fait, ce livre-là est à peine terminé. On travaille déjà sur un prochain qui va être plus volumineux parce
oui.
que on connaît très, très peu de choses, contrairement aux Français qui, eux, ont étudié tous les aspects de la guerre.
Oui.
Nous, on s'est intéressé aux batailles et on commémore les batailles depuis un siècle, mais on connaît à peu près rien d'autre que l'histoire des batailles.
En effet, et là, c'est ça, vous mentionnez de l'autre côté de l'Atlantique. C'est sûr que c'est très incarné pour eux parce que ça s'est passé près de chez eux. Ils ont aussi eu on le sait peut-être pas assez, ils ont aussi eu à côtoyer beaucoup ces soldats-là qui arrivaient, des francophones comme les anglophones, au quotidien parce que, comme vous le mentionnez, et on peut s'imaginer, les gens vivaient pas dans des tranchées pendant 4 ans. Là, ça aurait été impensable.
Une guerre, tous les soldats vont vous le dire, c'est mm-hmm. une longue attente. La majorité du temps, on se bat pendant de courtes périodes. La majorité du temps, on attend, on est à l'arrière, on s'entraîne, on se repose, on fait ses forces, toutes sortes de choses du genre. Donc, les gens passaient beaucoup de temps, les soldats passaient beaucoup de temps avec la population. En France, ils sont restés pendant 4 ans. Pendant 2 ans et demi à peu près dans la même petite région, dans les mêmes villages, à fréquenter les mêmes gens, à les connaître très, très bien. Et ça, les Français dans cette région-là se souviennent très bien des Canadiens.
Oui.
Les Canadiens, malheureusement, aujourd'hui, ont un peu oublié ces liens-là qu'ils avaient développés avec la population.
Et ça, vous me le mentionnez, autant du côté des francophones que des anglophones, bien entendu.
Oh oui, quand on lit les souvenirs des soldats anglophones, on voit très bien l'attachement qu'ils développent pour les Français. Quand ils quittent la France, ils sont tristes de quitter leurs amis français. Ils sont vraiment admiratifs, ils sont amoureux des Français, même à la fin de la guerre. C'est vraiment, On lit jamais aucun commentaire négatif dans les journaux des soldats, qu'ils soient anglophones ou francophones.
Ouais. Et pour les francophones, on imagine le choc de retrouver pour la première fois le pays d'où nos ancêtres étaient partis et d'avoir ce contact. Parce que, bon, en 2014, on a accès à la culture européenne assez facilement, mais eux, pas vraiment à l'époque. C'était un grand voyage qu'ils faisaient.
C'est effectivement l'historienne Béatrice Richard qui faisait remarquer récemment que c'est la première occasion que les Canadiens français ont de retrouver les Français depuis la conquête. C'est la première fois qu'ils se retrouvent face à face parce qu'entre les deux, ils se sont très, très peu fréquentés. La plupart des Canadiens français à l'époque n'avaient jamais vu un Français de leur vie. Là, ils les voient chez eux. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, que l'accent empêchait de se comprendre, non, ils se comprenaient très bien, là. Les Français remarquaient que les Canadiens avaient un accent qui ressemblait à celui du Berry ou du Perche ou de certaines régions françaises. Là.
Ouais.
Mais, ils se comprenaient très bien entre eux.
Oui, parfait. On doit malheureusement terminer cette entrevue-là. Il y en aurait encore beaucoup à dire, mais je rappelle, M. Jean Martin, historien à la Direction de l'Histoire et du Patrimoine au ministère de la Défense nationale, mais outre ça, comme historien, vous venez de faire paraître cet ouvrage donc le mois dernier aux éditions Athéna. L'ouvrage s'intitule « Un siècle d'oubli, les Canadiens et la Première Guerre mondiale ». Merci, M. Martin, et bonne journée.
Je vous en prie.
On enchaîne tout de suite. Il est déjà 13h37. On aimerait pouvoir arrêter le temps. On va quand même avoir la possibilité de s'entretenir avec Mme Hélène Pelletier-Baillargeon, dont le parcours à elle, dans son parcours à elle, ce serait déjà à souligner comme femme de lettres québécoise, bien connue, comme journaliste, comme essayiste et biographe. Bonjour, Mme Pelletier-Baillargeon.
Bonjour.
Bienvenue à cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation, la suggestion généreuse de la Société Saint-Jean-Baptiste de vous donner cette place aujourd'hui. Alors, la biographie que vous avez fait paraître d'Olivier Asselin et son temps en 3 tomes, on le souligne chez Fides, à la fois le militant, le volontaire et le maître. On va voir un peu comment ça se décline chez cet homme complexe. Alors, je vous laisse nous donner un peu de façon chronologique les grandes étapes de la vie d'Olivier Asselin. Déjà, peut-être en commençant par souligner son nom, Olivier, contraction d'Olivier et Bolivar. C'est déjà intriguant.
C'est ça. Vous savez, les gens de l'époque se comprenaient souvent au son plus qu'à l'écriture. Par conséquent, c'est ce qu'on a dit, que le curé dans le registre avait incorrectement écrit le nom, ou alors, comme le père d'Asselin était un patriote et un homme de gauche, et peut-être que le nom de Bolivar lui était très cher.
Oui, c'est assez intéressant. Déjà, ça donne un peu le ton, il me semble, de sa destinée, en tout cas. Vous mentionnez que Olivier Asselin, on le sait, a été proche d'Henri Bourassa, le fondateur du Devoir.
Oui, c'est exact. Il a été, pendant un certain temps, aux États-Unis. Il a travaillé dans les usines de coton et c'est là qu'il a commencé à envoyer des articles dans les journaux franco-américain.
Mm-hmm.
Et là, il a été remarqué par Robertine Barry, qui avait comme nom de plume Françoise et qui était déjà la marraine littéraire de Nelly Gant. Et elle a remarqué tout de suite son talent et son talent de pamphlétaire parce que Olivier Asselin avait découvert les journaux français, il avait découvert ce style enflammé et très coloré qui lui plaisait beaucoup. Et quand il arrive à Montréal, où il commence à travailler dans divers journaux, c'est l'année suivante de la guerre du Transvaal, durant laquelle Henri Bourassa s'est opposé à la participation du Canada à la guerre et a fondé ce mouvement nationaliste dont le principe premier était que le Canada n'entre en guerre que lorsque ses frontières à lui sont menacées. Et Olivier Asselin, évidemment, a tout de suite le coup de foudre pour ce mouvement nationaliste, étant donné ses racines familiales. Et comme il est un organisateur clé, il devient rapidement le bras droit d'Henri Bourassa. Et tout de suite, pour donner un corps à ce mouvement-là, ils fondent la Ligue nationaliste en 1903. Et en 1904, Le Nationaliste, qui est un journal indépendant, parce qu'à cette époque-là, la plupart des journaux étaient des journaux de parti. Et la caractéristique du nationaliste qui fait tout de suite sa popularité, particulièrement auprès des jeunes, c'est que c'est une correction française exceptionnelle. C'était la passion d'Olivier Asselin, la langue française. Et aussi parce que il va innover dans le genre journalistique, d'abord en s'entourant de des talents, des plus beau talent de sa génération, qu'il suffise de citer Jules Fournier ou Eva Circé-Côté. Et il va inaugurer des rubriques comme les grandes enquêtes sur l'immigration, sur l'éducation. Et il va se révéler aussi un homme aux idées progressistes. Par exemple, il milite beaucoup dans son journal pour l'éducation publique et gratuite. Alors évidemment, comme l'éducation est sous la coupe de l'Église à ce moment-là, ça lui vaut une réputation d'anticlérical. Il mène aussi des combats pour la réappropriation de nos richesses naturelles et il se comporte en véritable pamphlétaire. On se rappelle de la célèbre gifle qu'il administre à Taschereau, qui est alors ministre dans le gouvernement de Simon-Napoléon Parent, sous prétexte que Taschereau avait menti dans une riposte à un article d'Asselin qui dévoilait un scandale politique. Il va donc faire de la prison. Son ami Jules Fournier qui prend sa défense aussi. Et il va être accueilli en triomphe par les étudiants à la sortie de prison. Alors, ce nationaliste donne vraiment déjà les grandes orientations d'Olivier Asselin. Mais il faut dire que Asselin et Bourassa ont deux tempéraments intellectuels différents. Asselin est un rouge, est un libéral, mais dans le sens européen du terme. Il est proche de la France républicaine. Alors que Bourassa, qui est un grand admirateur des institutions politiques britanniques, est aussi au plan religieux un ultramontain, c'est-à-dire un conservateur, ce qu'on a appelé, ce que les Anglais appellent un red Tory, c'est-à-dire un conservateur rouge. Et évidemment, le style pamphlétaire d'Asselin, ses procès pour libelles, tout ça agace souverainement Bourassa, ce n'est pas du tout dans sa ligne de pensée. Donc, en 1910, il décide de fonder Le Devoir. Mais comme Asselin est son organisateur et qu'Asselin pense tout naturellement qu'il va entrer au Devoir lui aussi, c'est lui qui met sur pied le journal et fait le recrutement. Mais dès que le Devoir commence à fonctionner, Asselin, qui se voyait courriériste parlementaire, est relégué aux affaires municipales, Jules Fournier aussi. Donc, au bout de quelques mois, il quitte le Devoir. Jules Fournier va fonder son journal L'Action et Asselin va continuer ses campagnes sous forme de petits fascicules qu'on appelle ses feuilles de combat et qu'il va éditer comme ça à frais d'auteur tout en gagnant sa vie avec forces expédients. Et en 1913, sa réputation est déjà bien établie. Il est élu président de la Société Saint-Jean-Baptiste et comme on l'a dit précédemment dans l'émission, il va inaugurer une campagne de financement pour la revue Le Droit.
Oui. Ce qui nous permet de juste souligner, on le faisait en ouverture d'émission, que le prix Olivier Asselin, c'est donc tout à fait, ça se comprend tout à fait que ce soit quelqu'un comme Pierre Allard, ben, enfin, il a été décerné à un paquet d'autres gens, les anciens récipiendaires, pardon, du prix Olivier Asselin. Il y a quand même là-dedans René Lévesque, René Lecavalier, Judith Jasmin, Pierre Nadeau, Fernand Séguin, Bernard de Rome, Louis-Gilles Francaire et bien d'autres. Alors, c'est assez important de mentionner que M. Allard, dans ce cas-ci, l'histoire rejoint l'histoire et se spécialisait, donc, M. Allard, dans les enjeux linguistiques, particulièrement ceux qui touchaient la minorité communauté franco-ontarienne, étant lui-même un franco-ontarien. Alors, c'était par ses éditoriaux une des principales tribunes d'opinion de l'univers médiatique francophone dans un milieu minoritaire. Ça valait la peine d'ouvrir cette parenthèse et de la refermer pour montrer le lien qui se tisse entre les deux.
Oui, on pourrait mentionner aussi Lucie Anguillou, qui a été le récipiendaire de l'an dernier, oui. Et qui rappelle le côté francophile d'Alivard Racine,
monsieur. Et qui est au devoir.
Et qui est au devoir.
Tout est dans tout, disait Raoul Duguay. On fait juste une petite suspension de cette entrevue-là pour un bref intermède musical et on continue après. Alors voilà, on est toujours en conversation avec Mme Hélène Pelletier-Baillargeon autour de la vie d'Olivard Asselin. On aimerait que ça soit Olivard Asselin et son temps, l'entrevue aussi, parce que c'est important de le placer dans son contexte historique. On va devoir le faire en très, très condensé. Vous aurez la chance, chers auditeurs, chères auditrices, de plonger dans les trois tomes. Je vous y encourage, mais pour vous donner au moins un avant-goût et en fait, l'envie d'explorer tout ça, si on revient à Olivard Asselin, on est rendu là, on avait dit la présidence de la Société Saint-Jean-Baptiste, ça c'est avant la guerre, et parmi les nombreux paradoxes de cet homme, il y avait ce paradoxe-là que vous soulignez quand on a préparé l'entrevue, que comment un nationaliste s'enrôle dans la guerre de 1914. Il fallait faire le pont puisqu'on parlait de la place des Canadiens français dans la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas?
Oui, oui, c'est ça. Alors, Asselin, on l'a dit, est un francophile, grand francophile. La France, pour lui, est sa patrie spirituelle, son inspiration politique. Donc, quand la guerre de 14 éclate et que la France est envahie, il est complètement déchiré parce que, comme nationaliste, il devrait s'opposer à l'enrôlement qui est prêché par le gouvernement fédéral, évidemment. Il cherche de quelle façon il peut défendre la France. Il essaie de se faire embaucher comme traducteur dans le corps expéditionnaire canadien. Il essaie d'entrer dans l'armée française. Tous ses efforts sont vains jusqu'au moment où le ministre de la guerre, Sam Hughes, décide pour mousser l'enrôlement qui piétine littéralement dans la province de Québec, de demander à des personnalités civile de se servir du prestige de leur nom pour recruter des bataillons. Alors, Asselin saisit cette occasion et il plonge et il dit qu'il est prêt à lever un bataillon. Il refuse cependant le titre de colonel honoraire parce qu'il dit « Moi, je suis pas un militaire, j'ai pas la formation qu'il faut, mais je lève un bataillon à mon nom. » Et il recrute rapidement beaucoup de ses fidèles adeptes, même à l'extérieur du Québec. Et il fonde le 163e bataillon. Qu'il va surnommer les poils aux pattes et il veut que ce soit le second bataillon francophone avec le 22e. Malheureusement, Sam Hughes va le trahir et lorsque son bataillon arrive en Angleterre, il est démembré et les recrues, comme le disait notre ami historien, les recrues sont disséminées dans des bataillons anglais. Mais comme lui est déterminé à faire quelque chose pour la France, il rapidement se fait donner la formation militaire nécessaire et il peut entrer au 22e et c'est à titre de major et c'est dans ce cadre-là qu'il va participer à la célèbre bataille de Vimy. Dans le nord de la France et son courage et son talent de rassembleur va lui valoir après la guerre la Légion d'honneur. Ensuite, il va participer à la libération de la France. Et tout de suite après, le ministre de la Justice, Darty, fait appel à lui comme conseiller pour la conférence de Versailles. Alors, il va participer à la conférence de la paix à Versailles et il va avoir évidemment une grande admiration pour Clemenceau. Et comme Clemenceau, il va redouter que toutes réparations qu'on exige de l'Allemagne amènent celle-là l'Allemagne à désirer une revanche et provoquer un autre conflit mondial. Et après la conférence de Versailles, il est évidemment démobilisé et rentre au Canada obligé de travailler dans divers petits emplois parce qu'aucun des journaux ne veut l'employer.
Et c'est là où, parce qu'on arrive vraiment presque à la conclusion, autre paradoxe de sa part, il devient rédacteur en chef du journal du Parti libéral, alors qu'on pourrait s'en étonner.
Oui, pour un nationaliste, c'est un nouveau paradoxe, mais là encore, il va manifester son grand talent de rassembleur, il va animer les pages culturelles, il va faire du Canada tout autre journal, change la maquette, introduit les caricatures, recrute des grands noms qui demeureront dans l'histoire du journalisme québécois. Il fait une grande place aux femmes aussi.
Ouais.
Et surtout, il fait vraiment un autre type de journalisme. Mais au bout d'un certain temps, il sent qu'il ne peut plus appuyer les politiques de Taschereau. Il met fin à son engagement au bout de 4 ans. Et là, grâce à un mécène qu'il rencontre à l'hôpital, Alban Janin, il reçoit du financement pour fonder son propre journal qui est l'Ordre et qui va vraiment être l'œuvre de sa maturité.
En effet, malheureusement, éventuellement censuré par l'Église, cet homme n'a pas pu connaître toute la liberté qu'il aurait dû connaître, n'est-ce
Exactement.
pas?
Exactement. Il est obligé de fermer son journal après un certain temps, mais vont s'illustrer après lui toute une génération de journalistes qu'il aura formés.
Merci beaucoup, Mme Hélène Pelletier-Baillargeon, pour cet entretien. On aurait eu besoin de plus de temps. On aurait besoin, en fait, de plus qu'une heure pour couvrir l'histoire. On a toujours Maxime Laporte qui était attentif autant que moi à cette entrevue. Et j'arrive à la conclusion pour remercier donc l'ensemble des invités. Maxime Laporte, Pierre Curzi, Lucie Laurier, Jean Martin, Hélène Pelletier-Baillargeon, on vient de le mentionner. En reportage, c'était Émilie Lamine. À la mise en onde, Jean-François Roy. Merci, Jean-François. Animation, réalisation, Guylaine Lheureux. Vous pouvez retrouver cette émission, comme toutes les émissions de CIBL reçoit, en balado-diffusion sur le site de CIBL, donc cibl1015.com. Je vous rappelle qu'on fait relâche en décembre, donc notre prochain rendez-vous, c'est le 28 janvier. Ce sera une nouvelle année qui s'amorce avec sûrement la possibilité, Jean-François, que Maxime Laporte nous mentionne, que ça sera sans doute une autre année riche pour la Société Saint-Jean-Baptiste, n'est-ce pas?
Ah, certainement. Beaucoup, beaucoup de défis se posent et puis on est là pour les relever.
Oui, malgré que c'est tellement facile, on peut juste au moins dire ça, de trouver le moyen de casser du sucre sur l'Office de la langue française, l'Office québécois de la langue française,
Sur la SSJB, comme on le voit bien cette semaine.
Société Saint-Jean-Baptiste. Alors, ça, c'est peut-être au moins la possibilité d'avoir de pouvoir couvrir différemment de ce que les médias parfois peuvent monter en épingle, donner un espace où les nuances, comme on le disait en ouverture d'émission, les nuances, ça demande une intelligence du propos, ça demande du temps aussi.
Et c'est moins vendeur. Et puis, je salue vraiment CIBL pour cette série d'émissions, mais aussi plus largement toute la formule CIBL reçoit, puisque effectivement, ça permet de donner la parole aux organismes citoyens comme le nôtre qui, dans notre cas, on obtient malheureusement souvent de la visibilité pour des mauvaises raisons, des faits divers, alors que c'est beaucoup plus large que cela, SSJB. C'est une œuvre de 180 ans hein, cette année, et puis il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Guylaine.
Oui, c'est un bel héritage, et c'est intéressant de pouvoir le partager avec les auditeurs et les auditrices. Je pense qu'on glisse doucement vers le thème de l'émission pour... Dans vraiment juste le temps de vous dire au revoir et un rendez-vous le 28 janvier prochain.